19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce micro. Dans moins de 5 minutes, une rediffusion du magazine Le Dialogue des Religions. Ce sera avec Idrissa Seydou Dia, mais avant, un point de l'actualité. Le patient libérien atteint d'Ebola, le premier à avoir été diagnostiqué aux États-Unis, est décédé ce matin à Dallas. En Sierra Leone, plusieurs équipes chargées d'enterrer les victimes du virus Ebola se sont mises en grève. Elles protestent contre le retard de leur salaire. Jacques Aristide.
Thomas Eric Duncan est mort ce matin dans un hôpital de Dallas où il était en isolement depuis plusieurs jours. Il était le premier malade d'Ebola diagnostiqué aux États-Unis. Au Liberia, même un membre du personnel médical de l'ONU a été contaminé après le décès d'un de ses collègues en septembre dernier. Les infirmiers libériens menacent d'entrer en grève. Ils demandent un salaire mensuel de $700 alors qu'ils ne perçoivent pour le moment que $400 par mois. En Sierra Leone, les fossoyeurs sont entrés en grève. Ils sont censés recevoir chacun $100 par semaine pour inhumer jusqu'à 35 corps par jour. Ils affirment n'avoir pas été rémunérés depuis le mois de mai. Les grévistes réclament également une prime de risque parce que, disent-ils, les dépouilles demeurent contagieuses même après le décès des malades, prime que les autorités leur ont refusée jusqu'à présent. Sidi Yaya Tunis, un porte-parole du ministère de la Santé, a parlé de situation très embarrassante. Il promet que les salaires seront payés cette semaine. La Banque mondiale a estimé ce mercredi que le coût de l'épidémie en Afrique de l'Ouest pourrait atteindre 32,6 milliards de dollars d'ici l'an prochain si Ebola se propage au-delà de la Guinée, du Liberia et de la Sierra Leone.
En République centrafricaine, forte tension à Bangui, où au moins 4 personnes ont été tuées dans des violences, les activités étaient totalement paralysées aujourd'hui. Le président kényan Uhuru Kenyatta est devenu aujourd'hui le premier chef d'État en exercice à comparaître devant la Cour pénale internationale à La Haye, Camille Gros-Didier.
Souriant et détendu, Uhuru Kenyatta est apparu à une audience qui déterminera la date de son procès ou bien entraînera le report sine die de la procédure. Son avocat Stephen Kay a plaidé pour l'abandon des poursuites contre lui. Il a le droit de revendiquer un non coupable, a martelé Maître Kay, ajoutant que s'il y avait des preuves, nous aurions un procès. Fatou Bensouda, procureur de la CPI, avait accusé les autorités de Nairobi d'avoir refusé de livrer les relevés téléphoniques, fiscaux et bancaires de M. Kenyatta pour étayer l'accusation. En plus, ces derniers mois, beaucoup de témoins se sont rétractés. Uhuru Kenyatta est accusé pour son rôle présumé dans les violences post-électorales au Kenya fin 2007 et début 2008, qui avaient fait au moins 1100 morts et quelques 650 000 déplacés.
Les Nations Unies font état d'une recrudescence des activités des rebelles de la LRA en République démocratique du Congo. D'après l'ONU, ces rebelles ougandais opérant en petits groupes s'illustrent par des kidnappings et des pillages dans le nord-est du pays, notamment dans les districts du Bas et du Haut Ouélé en province orientale. Le colonel Bassé, porte-parole militaire de la MONUSCO, a cependant estimé que la LRA n'avait plus sa capacité de nuisance au Congo d'il y a 2 ou 3 ans.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Les milices kurdes ont repoussé les combattants de l'État islamique de Kobané à la frontière turque. Le répit est intervenu à la suite de frappes aériennes sous commandement américain. Signalons aussi que les États-Unis et le Royaume-Uni sont prêts à examiner l'idée de créer une zone tampon entre la Syrie et la Turquie. L'annonce a été faite par le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue britannique Philip Hammond lors d'une conférence de presse. Le principe de cette zone tampon a également le soutien du président François Hollande de France. Au moment où la coalition internationale menée par les États-Unis continue ses raids aériens contre les positions djihadistes en Irak, l'armée irakienne a subi de nouvelles pertes aujourd'hui dans le nord du pays. L'un de ses hélicoptères a été abattu et ses 2 pilotes ont été tués. L'Irak a reçu l'année dernière 30 hélicoptères américains conçus à des fins commerciales, même pouvant être armés de mitraillettes et de missiles. Enfin, les Nations Unies estiment à 331 le nombre de morts enregistrés dans l'est de l'Ukraine depuis le cessez-le-feu du 5 septembre. Dernier. Selon le Haut Commissaire pour les droits humains, au moins 3600 personnes ont été tuées et près de 9000 blessées dans le conflit ukrainien de mai à octobre de cette année. Hier, les combats ont fait 12 morts et aujourd'hui, 8 civils ont été tués à Donetsk. Vous écoutez La Voix de l'Amérique, restez en notre compagnie dans un instant, le magazine Le Dialogue des Religions.
nous vous proposons maintenant un programme en rediffusion.
Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Dans le dialogue des religions de ce mercredi 19 février 2014, au micro Idrissa Sedoudia, bonsoir. Des parents californiens arguant de leurs droits constitutionnels refusent de faire vacciner leurs enfants pour des raisons religieuses. Et un pasteur du Kentucky qui manipulait des serpents dangereux pendant ses services religieux meurt après avoir été mordu. Il avait refusé de se faire traiter. La religion prescrit-elle le refus ou rejet de la médecine moderne ? Nos invités aujourd'hui, le docteur Daniel Capepula du Christian Victory Center ici aux États-Unis et le père Gerald Murray, docteur en droit canon et curé de la paroisse de Saint-Vincent de Paul à New York. Tout à l'heure, vos questions à nos invités ainsi que vos commentaires sur Facebook. Mais tout d'abord, pour camper le sujet, une nouvelle loi qui vient d'entrer en vigueur en Californie exige des parents qui ne veulent pas vacciner leurs enfants de rencontrer au moins les spécialistes de la santé pour discuter des bienfaits et risques de la vaccination avant de les inscrire à l'école ou à la crèche. Bien que les écoles exigent un ensemble complet de vaccination, 48 États de l'Union acceptent l'exception religieuse qu'exploitent aussi bien des parents pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la religion. Refus des vaccinations, mais également de tout soin médical, est-ce qu'un parent a le droit de prendre ce genre de décision vitale pour son enfant? Ce sera une des questions que nous poserons tout à l'heure. En tout cas, le pasteur Jamie Coates a refusé de se faire soigner après avoir été mordu. Il est rentré chez lui et quand plus tard une ambulance est allée là-bas, sa femme a signé une décharge pour certifier qu'il n'avait pas besoin de soins. Une heure après, quand les secouristes sont retournés sur place, il était mort. Son fils Cody n'a aucun regret. Quand c'est honneur, a-t-il dit. On estime à 125 le nombre d'églises qui, aux États-Unis, utilisent des serpents pendant leurs services religieux. Pour justifier la pratique, les pasteurs concernés citent l'évangile Saint-Marc qui dit, et je cite, « Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages, il ne leur fera point de mal. » Voilà. Maintenant, nos invités. Pasteur Daniel Capepula, est-ce que vous m'entendez?
Je vous entends bien, Idrissa.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Pas de quoi.
Mon père Gérald Murray, est-ce que vous êtes là avec nous?
Oui, bien sûr.
Merci.
Très heureux d'être avec vous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors donc, on va commencer avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce refus de la vaccination?
Bon, je trouve que c'est pas bien que les gens ont une obligation de se soigner et d'avoir recours aux médicaments qui peuvent être utiles pour ne pas tomber malade et aussi pour assurer dans la société qu'il n'y a pas des graves maladies qui peuvent poser problème pour les enfants à l'école ou dans d'autres lieux. Alors oui, je pense que Dieu veut que nous soyons reconnaissants de sauvegarder notre santé.
Pasteur Capepula?
Oui?
Oui, allez-y. Alors donc, qu'est-ce que vous pensez de cette pratique qui consiste à refuser les vaccinations?
Bon, la pratique, parents surtout prendre la décision sur les enfants qui n'ont pas la même foi que eux, ça je ne suis pas d'accord. À moins que leur foi puisse les sauver, parce que le monsieur dont vous parlez, j'ai lu que ce n'est pas la première fois qu'il avait été mordu. Il avait été mordu beaucoup de fois, mais il n'était pas mort.
Mais là, son fils dit qu'il a manipulé ce serpent plusieurs fois. Mais que, bon, le serpent ne l'a jamais mordu, mais vous savez que dans des situations pareilles, il suffit d'une seule fois et puis c'est mortel, malheureusement. Mais vous semblez dire que vous n'avez pas de problème avec ces décisions qui consistent à ne pas accepter la vaccination ni les soins médicaux?
Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, bon, je vais expliquer. S'il s'agit de moi, que je pense que ma foi peut me sauver, selon la Bible. D'accord. Mais si je connais les bienfaits, moi je vais conseiller que non, allez. Parce que la foi dans les choses de Dieu, des fois nous prions quelqu'un est guéri, des fois quelqu'un n'est pas guéri. Donc ce n'est pas scientifiquement qu'on peut appliquer ça d'une manière à dire comme une action scientifique. Et puis surtout pas prendre une décision sur quelqu'un qui lui n'a pas la même foi que vous comme un enfant. C'est pas bien. J'accepte pas.
Mon père, Gérald Murray, vous pensez que la foi peut guérir? La seule foi?
Et que... bon, on dit que c'est Dieu qui guérit les gens par miracle, s'il veut, et nous avons besoin de foi pour apprécier que c'est l'action de Dieu. Mais on ne peut pas dire « je crois, alors je serai guéri si j'ai une croyance forte ». Non. Peut-être vous allez mourir parce que notre vie n'est pas seulement pour la terre, c'est pour l'éternité. Alors, si Dieu permet que nous soyons guéris, bien, sinon, nous acceptons la mort.
Oui, en fait, j'entendais très souvent « aide-toi et le ciel t'aidera », ce qui veut dire que, bon, Dieu a mis à notre disposition tous ces médicaments, toutes ces découvertes scientifiques et autres. Alors, pourquoi ne pas en profiter? Quelle est la contradiction avec la religion?
Pas du tout. En fait, l'intelligence humaine, c'est un don que Dieu nous donne. Et le progrès scientifique, c'est une manifestation du fait que l'humanité étudie et fait progrès dans la connaissance des maladies et des guérisons.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion.
Alors, nous allons céder l'antenne à un de nos auditeurs, archiduc Théodore de N'Djamena. Allez-y, votre question ou votre commentaire.
Archiduc. Bonsoir tout le monde. Selon la religion, c'est dit qu'il faut frapper avant qu'on ouvre la porte. Et quelque part, il est également signifié de bien signifié aide-toi avant que le ciel t'aide. Alors, ma question est de savoir est-ce que la croyance dans l'ignorance n'est-elle pas un péché?
Est-ce que vous avez compris la question?
La question.
Docteur Daniel Capepula.
Oui.
Vous avez compris sa question?
Je n'ai pas bien saisi.
Alors, archiduc, voulez-vous répéter parce que la ligne était mauvaise?
Voilà, je disais, selon la religion chrétienne, il est signifié quelque part qu'il faut frapper avant qu'on ouvre la porte.
Alors, attendez, j'interprète. Attendez, je vous reprends. Je vous reprends. Bon, vous dites que donc il faut frapper à la porte pour qu'elle s'ouvre. Et c'est ça. Donc,
exactement.
Et puis, votre question, c'est quoi? Répétez, et puis peut-être que j'entendrai mieux que nos invités et je me ferai l'écho de ça. Allez-y. Alors, votre question, c'est quoi?
Est-ce que la croyance dans l'ignorance n'est pas un péché?
Est-ce que la croyance dans l'ignorance n'est pas un péché? Voilà.
Exactement.
Allez-y. Père Gérald Murray.
La croyance révélée par Dieu, par Jésus-Christ, sont pour défaire notre ignorance et pour nous donner l'intelligence qu'on doit utiliser. Alors, de rester ignorant pour volontiers, c'est vraiment péché. On doit étudier, on doit apprendre. Mais le fait que quelqu'un n'est pas instruit ne signifie pas qu'il est stupide, parce qu'il peut suivre les conseils de quelqu'un en qui il a confiance, comme un prêtre ou un médecin, quelqu'un comme ça. Nous avons confiance dans les connaissances d'autres.
Docteur Daniel Capepula.
Ce n'est pas un péché comme tel, mais la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances, comme il vient de dire. Donc, même la Bible reconnaît que nous devons avoir la connaissance en dehors de notre foi. Donc, ignorer, ce n'est pas bon. Il faudrait que les gens cherchent à connaître, comme le Père vient de le dire, à partir des médecins, à partir des instructeurs, à partir des agents sociaux, pour enfin se sauver également la vie. D'accord.
Alors, je vais lire quelques réactions. On a dit, Serge, Serge nous appelle d'où?
Du Bénin.
Du Bénin, allez-y Serge.
Ok, moi j'ai deux questions. La première, c'est de savoir, est-ce que c'est leur religion à eux, parce qu'apparemment leur religion est quelque peu différente de celle chrétienne, parce que celle chrétienne n'interdit pas le traitement médical. Donc j'aimerais savoir si c'est leur religion à eux qui interdit le traitement médical. Et si c'est le cas, En quoi est-ce que ce traitement, c'est-à-dire les vaccins, constitue-t-il un péché ou en quoi va-t-il à l'encontre de la parole de Dieu?
Le père général Gérald Murray.
Bon, ce que je trouve, les gens qui font cela ici en Amérique, avec les serpents et tout ça, c'est une façon ignorante de lire la Bible et de suivre les conseils de la Bible. Nous devons savoir que l'Église catholique n'a jamais dans son histoire proposé aux gens de manipuler les serpents. Alors, on doit dire ce qui est raisonnable, ce qui est traditionnel dans la foi catholique nous enseigne quelque chose dans la Bible doit être interprété d'une manière symbolique. Et les gens, le fait qu'on croit en quelque chose ne signifie pas que c'est vrai, c'est sûr, ça. Mais je dois dire, les gens qui sincèrement font des choses stupides, on doit les aider de voir leur erreur, pas leur condamner comme ça.
Docteur Daniel Capepula.
Protestante, pentecôtiste, charismatique, on n'a jamais conseillé aux gens de manipuler le serpent. C'est vrai que la foi est là, ce qui est dit est dit. Vous saisirez le serpent et vous prendrez les bras de Moïse, ça vous nuira point. Mais on n'a jamais, aucune église pentecôtiste, protestante, charismatique, n'a jamais conseillé les gens de manipuler le serpent. Au cas où vous êtes dans des problèmes comme ça, vous pouvez avoir la foi en votre Dieu. Mais ce n'est pas en tout cas à conseiller aux gens d'aller essayer mais de manipuler les serpents. S'ils ont pu faire ça, ça doit être une déviation, une hérésie. Ils se proclament de la religion chrétienne. Ils ont utilisé la Bible. Mais il y a beaucoup d'hérésies dans toutes les religions. Il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de faux docteurs, beaucoup de faux prophètes. Et cela ne peut pas être imputé sur toute l'Église chrétienne, non.
Alors donc... Je rejoins ici le père Gérald Murray quand il dit que, en somme, souvent, on interprète littéralement la Bible parce que pour justifier cette histoire de serpent, ils disent que selon l'évangile saint Marc, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages, il ne leur fera point de mal. Et c'est ça qu'ils utilisent pour justifier ce qu'ils font avec les serpents. Alors, je vais lire quelques commentaires ici. « La religion est l'opium du peuple, dit Jean-Pierre Kenhomme. Elle aveugle les gens et empêche plusieurs personnes à innover. » Alors, Christian Nainkalanzou abonde dans le même sens. Il dit « religion aveugle ». Est-ce qu'on n'est pas en train de condamner la religion de façon générale à cause tout simplement de ces cas dont nous parlons, de ces cas assez particuliers? Le père Murray.
Oui, je pense que oui. C'est, et en vérité, cette idée de religion comme opium de peuple, ça vient de Karl Marx. Et je dirais, la grande majorité des hommes voudraient vivre dans un pays catholique que de vivre dans un pays communiste. Les communistes, ça c'est l'opium de peuple, c'est l'idée que l'argent va vous sauver. Ce qui sauve, c'est Jésus. Alors non, c'était... Si on critique les erreurs des chrétiens, ça ne signifie pas que le christianisme est en faute.
C'est en général comme quand on critique certains musulmans à cause de certaines horreurs commises par certains musulmans, on condamne toute une religion.
C'est ça, et on doit reconnaître que on doit aimer les hommes, mais pas leurs erreurs. Et on ne doit pas dire que tout le monde fait le même erreur, parce qu'en ce cas-là, c'est très minoritaire les gens qui manipulent les serpents.
Docteur Daniel Capepula.
Oui, on ne peut pas condamner par minorité, comme aujourd'hui nous parlons des extrémistes, qui prennent quelques versets de Coran pour expliquer ce qu'ils veulent faire. Vous comprenez?
Ouais,
alors, de la même manière, la religion et l'opium, quand il n'y a pas la vie, il n'y a pas la lumière dedans. Parce que le christianisme, ce n'est pas tellement une religion. L'islam, c'est la vie éclairée. C'est la lumière, c'est la révélation. C'est l'amour. Donc, le christianisme, c'est un peu différent de toutes les autres qui... Mais c'est un peu différent, le christianisme. L'église chrétienne, c'est un peu différent de simplement la religion, comme les communistes ont défini là.
Oui, j'ai parlé de l'islam parce que j'ai eu à couvrir des campagnes de vaccination contre la polio en Afrique et dans certains pays que je tairai. Il y avait des intégristes qui disaient qu'il n'était pas question du tout de vacciner leurs enfants et qui s'y opposaient très vivement. Et il a fallu l'intervention des chefs religieux traditionnels pour dire carrément, et des différentes confessions religieuses, hein, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, etc., pour dire non, la religion n'interdit pas du tout la vaccination. Au contraire, il faut profiter de ce que Dieu nous a offert pour nous protéger et protéger nos enfants.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion.
Le Père Murray.
Ah oui, c'est ça, et j'apprécie beaucoup ce que vous dites, parce que c'est un grave erreur de dire aux gens que les médicaments qui viennent des pays développés sont en complot contre du peuple d'Afrique ou d'Asie. Et en fait, si on vit en paix, on doit partager les biens de tous les pays et les médicaments qui viennent de lointain pour créer la situation sanitaire propice pour le développement du peuple dans les pays pauvres.
Docteur Daniel Kapepula, vous connaissez bien l'Afrique et votre Congo natal. Comment est-ce qu'on voit, parce que tout à l'heure vous avez parlé de la foi pour guérir, pour se faire guérir d'une maladie, etc. Est-ce que c'est une pratique répandue? Est-ce que les gens s'en remettent comme ça, n'est-ce pas, Inch'Allah?
Non, chez nous, bon, de partout même en Afrique, là, comme vous avez dit, c'est conflit des générations, les conservateurs et la nouvelle génération et les extrémistes. Parce que même vous venez de dire que l'exemple qu'il y a eu de vie, qu'ils sont intervenus. Il faut que les gens s'adaptent, qu'ils sachent que la science travaille en leur bonheur, en leur avantage.
Voilà.
Nous acceptons que vous appliquez votre foi, mais que la science, les hôpitaux sont là pour vous aider.
N'est-ce pas?
Oui.
Alors, une autre question d'un auditeur. Allez-y, présentez-vous d'abord.
Moi, je m'appelle Émile Lumbaya.
Ok.
Je suis à Lubumbashi. Je suis médecin stagiaire à l'hôpital général de référence Saint-Louis.
Très bien.
Allô?
Oui, on vous écoute. On vous en...
ma question est celle-ci. Quel est le niveau d'instruction de ces 10 pasteurs? Et puis, la deuxième, est-ce que ces pasteurs ont d'autres travaux à faire à part celui de prêcher l'Évangile? Parce qu'un pasteur instruit, il doit connaître ce que les effets du venin du serpent dans le corps humain. Parce que ce n'est pas seulement maintenant que le serpent peut tuer quelqu'un par sa morsure, mais même dans l'ancien temps, il y avait des serpents qui étaient réputés d'être mortels, comme celui qui a mordu Pierre quand il partait, quand il était sur l'île de Grèce. C'était un serpent reconnu comme mortel. Alors, si dans la Bible, il y avait aussi des serpents mortels, pourquoi aujourd'hui les pasteurs peuvent refuser qu'un croyant ou un chrétien mordu par un serpent puisse aller aux soins de santé? Et même si les miracles peuvent se produire, bien sûr, pourquoi il ne peut pas prier pour les malades et les laisser aller voir son médecin? Et puis, concernant le travail d'un pasteur, si ce pasteur avait un autre travail à faire, il pouvait avoir un peu de moyens. C'est peut-être qu'il a vu que l'argent qu'on doit dépenser pour les soins médicaux allait peut-être l'aider et que cela pouvait partir au sol.
En fait, je vais vous arrêter tout de suite. En fait, c'était le pasteur lui-même qui a été mordu par le serpent et c'est le pasteur lui-même qui a refusé d'aller à l'hôpital et c'est sa femme qui a refusé aussi quand l'ambulance est venue pour l'amener à l'hôpital et son fils n'était pas inquiet du tout. Il a dit que c'était son heure, il fallait qu'il parte et il est parti quand son heure est arrivée. Voilà en réalité. Mais vous avez soulevé la question de savoir si il était instruit, le pasteur. Est-ce que, puisque vous vivez ici, Daniel Kapepula, et vous êtes pasteur, vous appartenez à la même confession pentecôtiste?
Oui, oui, oui. Mais vous savez qu'aux États-Unis, nous déposons même nos diplômes pour être agréés.
Donc, ce n'était pas quelqu'un qui n'était pas instruit
non,
du tout.
Non, pour vous donner la licence et consort, moi, je me suis fait enregistrer tout ça. Et on exige aussi tout ça dedans.
Donc, on ne s'improvise pas pasteur dans ce pays, n'est-ce pas?
Non, parce que vous devez être ici, vous devez avoir tous les trucs là de fédéralisme et puis avoir les trucs des taxes, vous avez à remplir et on vous pose des questions dedans.
Alors, je tiens à dire merci à notre ami Zéphirin Mouzodi Massamba qui nous a écrit de la RTK Kamonia au Kassai Occidental et qui nous dit qu'il suit, mais j'aimerais aussi qu'il appelle de temps en temps pour poser des questions.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion.
Alors, pour résumer, parce que nous sommes presque à la fin de cette émission, le père Gérald Meuret, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? Est-ce qu'on a le droit, au nom de la religion, de refuser des soins, non seulement pour soi-même, mais pour ses enfants, et on leur refuse aussi la vaccination au nom de la religion, en disant que la religion nous l'interdit et que seule la foi peut guérir?
Non, je dirais que non, les gens doivent profiter de tout ce qui offre à la race humaine le progrès médical. S'il y a une question, si quelque chose est sûr ou non, on doit consulter le curé, le médecin, le professeur. Mais cette idée que la religion est une substitution pour l'intelligence humaine, c'est faux. L'intelligence humaine va en pair avec la religion chrétienne et ce qu'on doit faire comme les sujets de Jésus-Christ.
Merci, docteur Daniel Capepula.
Comme vous venez de le dire, les trois religions que moi je connais, islam, judaïsme et christianisme, on n'a pas droit d'interdire. Les gens ont droit de refuser, mais la religion n'a pas droit de les interdire. Ce n'est pas interdit dans aucune de ces trois religions.
Alors donc, que ce soit bien clair, la religion n'interdit pas aux gens de se faire soigner. La religion n'interdit pas aux parents d'amener leurs enfants se faire vacciner. La religion nous dit très clairement que Dieu nous a donné ses moyens de faire face à la maladie, d'améliorer notre vie, notre santé, et on ne devrait pas en quelque sorte cracher là-dessus. Et que manipuler des serpents constamment, c'est courir des risques graves, et que finalement, ça peut être fatal. Mais comme on l'a vu avec ce pasteur du Kentucky, il a refusé de se faire soigner et sa femme a refusé de l'amener à l'hôpital. Son fils a estimé que la religion... Mais souvent, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut en arriver à ce point. Ce n'est pas le fanatisme que l'on a constaté aussi dans d'autres régions du monde. L'Amérique n'est pas épargnée par le fanatisme, c'est ça, docteur Capepula?
Non, l'Amérique n'est pas épargnée parce que j'ai lu dans le commentaire qu'il y a plus de 125 religions qui pratiquent ces choses-là. Bon, moi, je ne connais pas dans la Bible, ça n'existe pas dans notre éthique chrétienne, ça n'existe pas.
Merci beaucoup. Alors, le père Gérald Meuret, nous l'avions en direct de New York, il est docteur en droit canon et curé de la paroisse de Saint-Vincent de Paul à New York. Nous le remercions d'avoir participé à cette émission. Nous remercions aussi le docteur Daniel Capepula du Christian Victory Center aux États-Unis. Et nous remercions les auditeurs qui ont participé à cette émission et qui, malgré le temps, ont pu nous envoyer quelques commentaires sur Facebook. Voilà. Et je remercie aussi de l'autre côté de la vitre, Joselle Morissin, qui a produit cette émission et qui a pris ensemble tous les contacts nécessaires pour nous permettre d'avoir cette émission. Voilà, donc c'était le dialogue des religions avec Idrissa Seduya. Restez à l'écoute. Washington, la voix de l'Amérique.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion.